de nos programmes va maintenant se poursuivre en français. Dobriden, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague en français. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent au programme de cette prochaine demi-heure. Parmi ces rubriques figurent notamment votre courrier, le courrier des auditeurs. Ce sera avant le magazine littéraire de Václav Richter qui nous fera découvrir aujourd'hui le partage de midi, une pièce de théâtre et une aventure où Paul Claudel a failli laisser son âme et sa vie. Et cette pièce a été mise en scène récemment à Prague. Nous en saurons plus dans la seconde moitié de ce programme. Mais avant tout cela, place à une autre culture, à la rubrique culture. Culture sans frontières, dans la rubrique de ce week-end, un sujet un peu lié au 8 mai qui tombe ce dimanche, date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 31 mai prochain sort en effet en salle le film Lidice, réalisé par Petr Nikolaev et qui retrace le destin de ce petit village près de Prague, rasé par les nazis en 1942 en représailles de l'attentat contre le Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Une rubrique proposée par Anna Kubista.
Culture sans frontières.
Petr Nikolaev, oui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur du film Lidice. Lidice, c'est un épisode très marquant pour l'histoire tchèque. On aura l'occasion de revenir. Alors, c'est un film qui aurait dû à l'origine être tourné par la réalisatrice Alice Nelis. Alors, il se trouve qu'elle n'a pas pu. Qu'est-ce qui vous a fait accepter finalement de remplacer Alice Nelis pour ce projet?
Un projet comme ça, c'est un défi. Et pour moi, c'était un défi doublement parce que mon grand-père était dans cette période exécuté aussi par les Allemands. Alors, j'ai trouvé que c'est pas tout à fait un hasard que j'ai eu cette proposition et j'ai accepté parce que j'ai trouvé ça comme un devoir.
Dans quelle phase, à l'heure actuelle, en êtes-vous par rapport au film? Donc, le tournage s'est terminé.
On est sur le point, vraiment. Il nous reste quelques heures d'enregistrement de la musique et ensuite on va faire le mixage, c'est tout. C'est-à-dire vraiment vous êtes sur le point, vous me trouvez sur le point de faire des derniers pas.
Alors il faut rappeler quand même que Lidice, c'est un épisode très douloureux de l'histoire tchécoslovaque. C'est un peu, si on pouvait comparer à l'histoire de France, un peu comme Oradour-sur-Glane finalement dans le sud de la France, c'est-à-dire que c'est un village qui a été entièrement rasé, et pas seulement puisque la majorité de la population a été exécutée par les nazis en représailles de l'attentat contre le Reichsprotektor Reinhard Heydrich par deux parachutistes tchécoslovaques. Alors c'est un sujet dont on traite énormément ces temps-ci. Alors notamment, il se trouve que ça correspond avec la sortie l'an dernier d'un livre, et ici aussi en République tchèque, qui s'appelle HHHH, de Laurent Binet, si vous en avez entendu parler. C'est un écrivain français, et qui s'est interrogé justement sur la manière dont on écrit l'histoire, comment est-ce qu'on écrit l'histoire. Et il se trouve que son roman parle justement de Heydrich et de ses parachutistes, puisque lui s'interroge sur comment est-ce qu'on écrit l'histoire, comment est-ce qu'on tourne l'histoire pour être le plus fidèle possible.
Bien sûr qu'on était tout le temps pendant le tournage et pendant la préparation en contact avec des spécialistes qui nous ont guidés, parce que bien sûr que ce sont des moments où la précision est très importante. Alors c'était Eduard Stehlik, monsieur Stehlik, qui nous a aidé énormément parce que c'est l'auteur d'un livre sur le Lidice, qui est très, les recherches étaient très très minutieuses et il nous a aidé énormément.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, il me semble qu'il y a des personnes qui ont survécu, hein, des enfants qui ont été, qui ont échappé au massacre. Est-ce que vous avez pu rencontrer justement ces personnes?
Bien sûr. Alors, on a présenté le projet à Lidice, c'est-à-dire au village qui était reconstruit ou plutôt construit à côté de l'ancien village. Et c'était une discussion assez intéressante parce que, bien sûr que ces gens-là, après ces 69 ans, sont ils attendent avec impatience le film et en même temps avec de certaines soucis où ils sont bien sûr qu'ils sont complètement concentrés sur cette histoire et j'espère qu'on va pas les trahir.
Alors ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films tchèques qui s'intéressent à l'histoire récente. Hein. Il suffit de penser à Pouta, qui est le film qui a remporté énormément de récompenses récemment pour les Lions tchèques. Mais on peut penser aussi à Protector. Est-ce que c'est finalement un besoin, d'une certaine façon peut-être conscient, inconscient des Tchèques, en tout cas des réalisateurs tchèques, de se pencher sur le passé?
Bien sûr que c'est un besoin, mais je ne crois pas que c'est spécifiquement tchèque, parce que ça existe dans toutes les nations. Ce qui est intéressant, c'est que ce film était, ou le film qui a dû parler de Lidice, était prévu à plusieurs reprises, et finalement, ça se réalisait jamais. Alors, c'est très émouvant, finalement, d'être quelqu'un qui réalise ce rêve, voilà.
Je crois savoir que le film aurait dû sortir début juin et que finalement la sortie a été avancée pour que les écoliers puissent aller voir ce film avant la fin de l'année scolaire. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que justement dans votre démarche aussi il y a ce côté pédagogique, historique vis-à-vis de la nouvelle génération?
Ce sujet, évidemment, comme la visite de Lidice ou de ce... cet endroit c'est finalement c'est la visite obligatoire de Lidice, parce que chaque moi-même quand j'avais 11 ans je visitais Lidice avec l'école, alors ça fait partie de finalement de l'éducation scolaire tchèque. Et c'est naturel que on a pensé justement à la projection aux élèves.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ou votre meilleur souvenir de tournage pour l'instant dans ce film?
C'est difficile d'en parler. C'est bien sûr que il n'y a pas des moments très gais. Pendant le tournage, bien sûr, on était tous excités et finalement tout le temps sous la pression, parce que on a tourné dans des endroits comme Térésine ou comme Lidice, où on a visité des lieux qui n'étaient pas forcément gais, mais ce souvenir est très intense, parce que le tournage c'est vraiment comme presque un peu hallucinant, c'est parce que le tournage, quand on a travaillé sur les exécutions et des choses comme ça, j'étais pas dans un état tout à fait normal. C'était difficile à décrire.
Juste pour terminer, donc un petit peu pour décrire au niveau de la distribution, qui sont les acteurs principaux du film et quand est-ce qu'est prévu exactement la date de sortie alors?
Le rôle principal, c'est Karel Roden qui joue le rôle principal masculin, et ensuite c'est Zuzana Fialová, c'est une comédienne slovaque qui joue son partenaire. À Zuzana Bidžovská, qui est aussi une actrice célèbre tchèque, qui joue sa femme. Et ensuite, ce sont des gens, un jeune couple. C'est le jeune couple, c'est Veronika Kubařová et Marek Adamčík, qui joue un rôle très important dans l'histoire, parce que c'est finalement par ce couple qui la destruction du village arrive sans le vouloir, parce que le garçon a écrit à cette fille une lettre dans laquelle le gardien de l'usine a trouvé des éléments suspects, et à cause de cette lettre, c'est la Gestapo qui a décidé d'attaquer le village.
Lorsque j'ai rencontré Peter Nikolaev, c'était à la fin mars et toute l'équipe était en train d'enregistrer la musique qui accompagnera le long métrage. Elle est interprétée par l'Orchestre National Tchèque, spécialisé dans les musiques de films. André Adé en est son représentant.
Oui, bon, l'orchestre s'appelle l'Orchestre National Tchèque. C'est un orchestre qui est composé des membres de trois orchestres. C'est l'Orchestre Philharmonique Tchèque, l'Orchestre de la Radio et l'Orchestre Chambre de Prague. Bon, c'est un orchestre qui travaille ici depuis 10 ans. On a fait beaucoup de films, surtout les films pour les États-Unis, mais aussi pour les Français.
Vous avez quelques exemples à nous donner de films français?
Ah, bien sûr. Je pense que le dernier, c'est L'Autre du Mans, avec Gérard Depardieu. On a aussi travaillé avec Monsieur Roman Polanski. Je sais qu'il est polonais, mais avec la culture française. Et c'était un film qui s'appelle Oliver Twist, dont la musique a écrit une femme, c'est Rachel Portman, c'est une anglaise.
Et puis le film a été tourné à Prague.
Tout à fait. Et je pense que c'est la seule femme qui a reçu une nomination pour les Oscars pour la musique. C'est l'exception. Mais sinon, on travaille très souvent ici. J'espère que dans l'avenir, on aura l'occasion d'avoir beaucoup plus de films tchèques.
Et vous-même, alors dans l'orchestre, quelle est votre fonction?
Je suis violoniste. Actuellement, je suis aussi, on peut dire, représentant officiel. Je fais deux choses en même temps.
Alors justement, vous parliez de film tchèque. Là, vous travaillez sur la musique du film Lady Tse, le film de Peter Nikolaev. Comment se passe l'enregistrement?
C'est notre troisième séance, donc la dernière. Je pense que ça se passe très bien, mais la difficulté, c'est la musique qui est très calme. Donc ça demande une grande concentration pour que ce soit vraiment très bien mis en place. Mais je pense qu'on est en train de réussir.
Vous avez vu déjà un peu le film?
Malheureusement, pas du tout, mais je serai le premier spectateur.
Dans cette émission culturelle, vous avez pu entendre Peter Nikolaev, réalisateur du film Lady Tse. Je vous rappelle que Lady Tse, c'est ce petit village près de Prague qui a été rasé par les nazis en 1942 en représailles de l'attentat contre le Reichsprotector Heinrich Heydrich. Autre personne que vous avez pu entendre, André Adé, violoniste et représentant de l'Orchestre National Tchèque qui était chargé d'enregistrer la musique du film. Le film Lady Tse sortira en salle le 31 mai prochain. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy.
Anna qui nous souhaite bon vent, c'est pourtant en sa compagnie que nous restons, en compagnie d'Anna Kubishta donc, mais aussi de Pierre Maignan qui se sont occupés cette semaine du tri de votre courrier. Un courrier malheureusement pas très abondant ces deux dernières semaines, c'est le moins que l'on puisse dire.
Courrier des auditeurs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique, une rubrique que vous avez tendance à délaisser malheureusement ces derniers temps, peut-être la faute à la fin des ondes courtes. En effet, vos courriers se font plus rares, ce que nous ne pouvons que regretter. Alors à vos claviers ou à vos stylos, bonne écoute de ce programme. Notre plus lointain auditeur, cela dit, ne nous a pas oublié. Osamu Aikawa continue de nous envoyer ses rapports d'écoute et de nous parler de son pays récemment meurtri par une catastrophe naturelle.
Encore 20 000 personnes sont toujours portées disparues. On dit qu'il y a trois éléments dans la catastrophe du Japon oriental. Tout d'abord, il y a eu un important tremblement de terre d'une magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre se composait de trois séismes continuels et le tout a duré 15 minutes. Le deuxième a été un gigantesque tsunami. La vague a atteint 38 mètres de haut. Le tsunami a balayé les gens, les maisons, les voitures. Le troisième était le feu. Le tremblement de terre et le tsunami ont causé des incendies. Le gouvernement japonais doit débloquer 20 milliards de yens pour financer les réparations, alors qu'il dispose d'un budget total de 90 milliards.
Nous compatissons, chers auditeurs, avec le drame qui touche votre pays. Je suis sûre que les Tchèques compatissent particulièrement avec les Japonais. D'ailleurs, si vous avez bien écouté la rubrique tourisme de jeudi dernier, eh bien, vous saurez qu'une collecte est organisée dans ce cadre. S'ils n'ont jamais connu de catastrophe aussi grave que la vôtre, ces Tchèques, eh bien, ils savent bien que ce que signifie signifie perdre tous ses biens en raison d'inondations. Le pays est régulièrement frappé par des crues, la plus violente remontant à 2002. Mais Osamu Aikawa, vous ne perdez pas totalement espoir et vous écrivez encore.
Nous sommes maintenant au printemps, dans une ambiance triste, les cerisiers sont en fleurs. À Tokyo, les cerisiers ont commencé à fleurir dès le 29 mars. Début mai, dans les villes endommagées par le tsunami, comme Sendai et Fukushima, les cerisiers vont éclore. Quand je vais faire des courses à Tokyo, je ne trouve rien, ni lait, pain, fromage, légumes dans les supermarchés. Des usines ont été détruites par le tremblement de terre. L'usine de fabrication ne fonctionne pas. Les pannes d'électricité réduisent la productivité. Et le séisme a détruit les réseaux routiers et les réseaux de chemin de fer.
Osamu Aikawa, merci de votre témoignage presque en direct du Japon. Encore une fois, toute la rédaction de Radio Prague vous envoie ses pensées en ces heures difficiles. Nous avons parlé de la catastrophe sur Radio Prague, évidemment, parce que l'accident de la centrale de Fukushima a relancé le débat sur le nucléaire en Europe et également en République tchèque. Même si c'est dans une moindre mesure, la centrale de Temelín dans le sud de la Bohême est controversée depuis des années, notamment par les voisins autrichiens.
Mais côté autorité tchèque, la position est claire. Pas question de remettre en cause l'utilisation du nucléaire. Le premier ministre tchèque Petr Nečas, mais aussi le président Václav Klaus, ne veulent pas entendre parler d'une sortie du nucléaire. Le débat reste donc confiné au cercle écologiste et activiste. Si vous avez le temps de nous écrire, dites-nous qu'en est-il du débat sur le nucléaire chez vous qui êtes directement concernés.
Et pas d'autres lettres malheureusement, seulement des rapports d'écoute. Nous remercions donc Abdelhamid Djebari de Tlemcen et Kamel Bouamama d'Elamra en Algérie, Abdelilaizou de Kémisset et Souamizara de Kouribga au Maroc, André Biot de Romeret en Belgique, Jean-Marie Monplot de Chambéry, Christian Guibaudot de Tende et Philippe Marsan de Biganos.
Pour finir, sachez que le concours de cette année est basé sur l'écoute des émissions de Radio Prague. Tout au long du mois de mai, chaque dimanche, mardi et jeudi, sera diffusée une chanson créée sur la scène d'un célèbre théâtre tchèque. Écrivez-nous le nom de ce théâtre et quelques lignes sur ses principaux protagonistes. Nous évaluerons la qualité des réponses pour désigner les lauréats.
Le concours a débuté le 1er mai et s'achèvera le 31 mai. Vous pouvez nous envoyer vos réponses jusqu'au 31 mai, donc par courriel à cr@radio.cz ou par courrier à l'adresse suivante Radio Prague, Vinohradská 12, 120 99, Prague 2, République tchèque. Le vainqueur du concours recevra un récepteur de radio numérique ou radio Wi-Fi. Les 30 autres finalistes des prix de valeur. Nous vous souhaitons une bonne écoute et beaucoup de succès. Et c'est ainsi que ça achève cette rubrique des auditeurs, c'est votre rubrique. Et puis je remercie Pierre Maignan pour m'avoir accompagné dans cette présentation qui fut par moments laborieuse. Bon vent, à bientôt.
Voilà, merci donc à Anna et à Pierre pour ce courrier, une rubrique que nous serons malheureusement peut-être amenés à supprimer à l'avenir, faute de courrier, tout simplement. En attendant, place à la littérature, partage de midi, une aventure où Paul Claudel a failli laisser son âme et sa vie. Partage de midi, est probablement la pièce de théâtre la plus personnelle et la plus intime de Paul Claudel. Ce drame de la passion et de la conscience, écrit dans un langage hautement poétique, pose de nombreux problèmes à ceux qui désirent le monter au théâtre. Ces problèmes n'ont cependant pas découragé la metteuse en scène, Hanna Burashova, qui a présenté cette pièce au théâtre de la rue Dlora, Divadlov Dlore, à Prague. Václav Richter a assisté à ce spectacle.
Rencontre littéraire. Les deux premiers actes de Partage de midi, confiait Paul Claudel à son ami Louis Massignon en 1908, ne sont qu'une relation exacte de l'horrible aventure où je faillis laisser mon âme et ma vie après 10 ans de vie chrétienne et de chasteté absolue. En 1901, le poète se rend en Orient. Il souhaite devenir moine chez les bénédictins de Ligugé, mais son engagement est refusé et il décide donc de reprendre sa carrière consulaire en Chine. Et c'est à ce moment-là, lors du voyage en bateau, qu'il fait la connaissance de Rosie Vetch. Soudainement, sa vie bascule. Paul Claudel s'éprend violemment et irrésistiblement de cette femme mariée à un homme d'affaires et mère de 4 enfants. La liaison adultère entre Paul et Rosie durera pendant 4 ans, et ce avec la complaisance du mari, dont les affaires bénéficieront du soutien intéressé du consul de France. Finalement, lorsque le scandale éclate et que le Quai d'Orsay ouvre une enquête sur la vie privée du consul, les amants sont obligés de se séparer. Enceinte de Paul Claudel, Rosie se remarie à Londres et le poète en est frappé en plein cœur. Il n'arrive pas à oublier cette femme devenue chère de sa chair. Terrassé par cette blessure béante qui ne se cicatrise pas, il écrit un drame qui lui permet d'exprimer toute la profondeur de son désespoir. Cette confession littéraire lui sauve probablement la vie. Ce n'est cependant que la première version de Partage de Midi, pièce qu'il gardera jalousement pour lui, remaniera à plusieurs reprises par la suite. La première officielle de ce chef-d'œuvre en France n'aura lieu qu'en 1948. En faisant entrer cette pièce dans le répertoire du théâtre de la rue Dlouha à Prague, la metteuse en scène Hanna Bureshova et le dramaturge Stepan Otchenachek ont fait preuve de courage. Déjà trouver 4 acteurs capables d'incarner les protagonistes de ce drame n'a pas été chose facile. Jouer à l'heure actuelle une pièce qui représente la cruauté du conflit intérieur qui ronge un homme écartelé entre la foi et l'amour charnel, entre la volonté de faire le bien et une passion coupable, est un exploit dont le succès est loin d'être assuré. Stepan Otchenachek explique les enjeux et les pièges d'une telle entreprise.
A je to mimořádně obtížné inscenačně to udělat, teda jak samozřejmě pro režiséra, tak především pro herce.
La mise en scène de cette pièce est extrêmement difficile pour le metteur en scène et surtout pour les acteurs. C'est une œuvre basée dans son ensemble sur la parole, ce qui n'est pas très courant dans le théâtre tchèque, à la différence de la France, où ce genre de théâtre a une tradition. En France, cette pièce est jouée couramment. Chez nous, c'est tout à fait inhabituel. Dans le théâtre actuel, la parole n'occupe souvent que la dernière position. Ici, elle est en première.
Avant de mettre en scène ce chef-d'œuvre de l'art dramatique français du XXe siècle, il a fallu définir ses aspects les plus importants, se poser des questions sur le message qu'il apporte, chercher à recréer l'atmosphère des 3 actes du drame qui, comme le constate Stepan Otchenachek, possède chacun une atmosphère particulière.
Au début, le spectateur a l'impression d'assister à des conversations galantes, tandis qu'à la fin, au début du 3e acte, on se retrouve, si j'ose dire, en plein drame social. La pièce est donc aussi un mélange de genres. Les 3 actes sont très différents les uns des autres, mais tout cela est unifié par le langage poétique de Claudel, et le drame, finalement, ne manque pas d'unité.
Hanna Bureshova et Stepan Otchenachek se rendent compte que le drame claudelien est une structure compliquée, une architecture à plusieurs niveaux qui offre toute une gamme des possibilités d'interprétation.
C'est un drame à la fois poétique et spirituel. Le message de ce drame est probablement plus important que son sujet, et ce bien que celui-ci soit remarquable et particulier. La pièce fascine par sa complexité, par ses nombreuses significations. Il est intéressant de noter que c'est une pièce autobiographique. Elle est basée sur la propre expérience de l'auteur.
Pour Stepan Otchenachek, Partage de Midi de Paul Claudel est surtout une pièce sur l'amour. L'amour sous toutes ses formes est sur l'amour absolu, l'amour impossible qui ne peut pas se réaliser en ce monde. Il n'oublie pas non plus que ce drame symboliste est non seulement un texte dramatique, mais aussi la confession d'un homme ayant traversé une grande crise, d'abord religieuse, puis sentimentale.
on to napsal vlastně těsně po té, co to prožil, což bylo někdy v tom roce 1900, tak v roce 1905.
Il l'a écrit juste après l'avoir vécu. Cela s'est passé à peu près en 1900 et en 1905, il a écrit la pièce, ou plutôt elle est sortie de ses entrailles. Claudel est parfois considéré comme le représentant du symbolisme littéraire et cette œuvre accuse beaucoup d'aspects de ce mouvement. Nous ne pouvons en aucun cas la considérer comme une histoire réaliste, bien qu'une telle histoire y soit ancrée, mais elle est traitée d'une façon poétique. Le premier acte de Partage de Midi se joue sur un bateau. Dans le deuxième, l'auteur nous amène dans un cimetière de Hong Kong où les amants se donnent rendez-vous, tandis que le troisième acte, qui aboutit à un dénouement tragique, est situé dans une maison assaillie par des insurgés et dont les habitants sont donc condamnés à mort. Pour évoquer ces milieux bien différents, la metteuse en scène Hanna Bureshova a choisi un procédé insolite. Elle a renversé la situation des spectateurs et celle des comédiens et a placé le public sur la scène. Le drame se joue donc sur une estrade couvrant les premières rangées de sièges, mais aussi plus loin dans la salle, parmi les sièges et sur le balcon. Stepan Ucenášek ajoute encore d'autres raisons qui ont poussé Hanna Bureshova à adopter cette solution et à créer ce théâtre à l'envers.
U této hry jsme cítili potřebu, aby herci byli blízko divákům, aby jako ten kontakt.
Cette fois-ci, nous avons senti qu'il fallait rapprocher le plus possible les comédiens et les spectateurs. En même temps, nous ne voulions pas comprimer ce drame avec des décors, par exemple. Non, il nous fallait de l'espace, car les pièces de Claudel ont besoin d'espace. Et comme sur la scène, nous jouissons d'une vue intéressante de la salle, une vue que les spectateurs ne connaissent pas et qui est belle, nous avons eu l'idée de retourner la situation habituelle et de placer les spectateurs sur la scène. Ainsi, nous y avons ajouté par moments une dimension plus spirituelle. Il y a donc en même temps le contact avec le spectateur et l'espace.
La
salle, les balcons et les sièges de théâtre couverts de housses immenses se transforment donc par les éclairages raffinés en mer houleuse, en cimetière oriental, mais reflètent aussi, grâce au jet des lumières, le paysage intérieur des protagonistes de la pièce. C'est donc devant cette salle vide que se joue le drame de Meza, jeune homme qui est une incarnation de Paul Claudel dans cette pièce. C'est sur le fond de cette salle vide qu'il trahit d'abord ses convictions pour se livrer à Isée, femme de sa vie, pour s'abandonner à un amour qui ne reculera devant rien, pas même devant le crime. C'est finalement devant cette salle vide qu'il reste abandonné, trahi et livré à la mort par cette même femme, mère de son enfant, femme qu'il est pourtant venu sauver au péril de sa vie. Et c'est devant cette salle vide qu'il reprend, au seuil de la mort, son dialogue avec Dieu.
Et c'est déjà la fin pour aujourd'hui du programme proposé par la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention. Dimanche, place sera faite à la musique sur Radio Prague et dès lundi, retour à l'actualité tchèque. À très bientôt donc. Ahoy. Thank you.
Radio Praga.